le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de l'école française qui n'est plus pertinente, selon certains parents, de la liberté de conscience des médecins, des 45 millions d'esclaves à travers le monde, d'une nouvelle proposition constitutionnelle et, bien sûr, des bonnes nouvelles du jour. Débutons par cet article qui a été publié sur la plateforme du Figaro et qui s'intitule « Pour les parents, l'école doit faire sa révolution ». Voici ce qu'on nous dit. Insuffisante préparation au monde professionnel, incapacité à proposer des enseignements individualisés. Plus de la moitié des parents jugent que l'école n'est pas adaptée aux enfants d'aujourd'hui, selon un sondage OpinionWay pour l'appel. Respect, rigueur, persévérance, telles sont les valeurs que les parents rêvent de voir transmises en priorité par l'école. Mais la réalité est tout autre selon eux. Si l'on en croit un sondage OpinionWay pour l'appel Association des parents de l'enseignement libre, ces trois éléments clés arrivent en toute fin de la liste des valeurs qu'ils jugent les mieux enseignées par l'institution scolaire. La rigueur se place en 10e et avant-dernière position, juste devant la responsabilité. Écoutez, mesdames et messieurs, il n'y a pas juste au Québec qu'on vit une crise scolaire, en France également. Et ce qui arrive, c'est que les parents se rendent compte qu'il y a un décalage entre l'éducation et l'instruction qu'on a reçue et celle que leurs enfants reçoivent. Et ça, c'est clair. Plus de la moitié des parents considèrent que l'école n'est pas adaptée à la jeune génération. Et c'est ça qui est le problème. C'est qu'aujourd'hui, pour équiper un jeune à faire face à notre société contemporaine occidentale, il y a tellement d'avenues puis il y a tellement de paramètres à considérer. Et en plus, il faut que les enseignants jouent le rôle d'infirmiers, de policiers, de mamans, de papas, de juges, d'arbitres, d'instructeurs, d'animateurs. Et ça rend la tâche assez difficile. Un peu plus loin dans l'article, on peut lire ceci, et c'est vraiment intéressant. Les enfants n'ont pas les connaissances de base, il y a également le problème de respect à l'égard de l'autorité. Eh bien ça, mesdames et messieurs, comment je pourrais vous dire ça? Ça ressemble énormément à ce qui se passe au Québec. Les élèves manquent des connaissances de base et il y a un problème de respect à l'égard de l'autorité. C'est quand même spécial que l'autre bord de l'océan, à l'autre côté de l'Atlantique, on vit des problèmes similaires. Mais ce qu'on nous dit également, c'est qu'en primaire, elle vote à 73 % pour une école uniquement le matin, avec des activités à la carte l'après-midi. Plus globalement, elles sont favorables au remplacement des classes traditionnelles par des regroupements en fonction des niveaux de performance et de la motivation des élèves. Ça, c'est intéressant. Parce que, savez-vous quoi, mesdames et messieurs? D'avoir des classes le matin où est-ce qu'on enseigne les connaissances de base et que l'après-midi, il y a des activités, ça va en droite ligne avec le développement de l'enfant et ses capacités à apprendre. Et en plus de cela, c'est que si on y va en fonction des performances et de la motivation des élèves, et non pas simplement à un rang ou à un âge, eh bien c'est clair qu'on va développer une jeune relève beaucoup plus efficace, beaucoup plus influente, beaucoup plus performante. Parce que les besoins d'instruction sont différents d'il y a 50 ans. Oui, au Québec, on a eu des réformes et en France, on a tenté certaines réformes également. Il y a une certaine adaptation parce qu'on a intégré quand même la technologie, on a intégré différents aspects, on a raffiné certaines formules pédagogiques. Mais il reste que néanmoins, on demeure avec un système où est-ce qu'il y a d'année en année on monte d'un niveau supérieur. Je crois qu'il doit y avoir différents parcours. On doit repenser l'école. D'une part, parce qu'il y a un grand taux de décrochage, et d'autre part, mesdames et messieurs, parce qu'on a besoin d'avoir des gens, des jeunes qui vont se distinguer, qui vont se démarquer et qui vont prendre leur place dans la société. Et il y a des jeunes qui sont malheureusement surdoués et qui s'ennuient à l'école. J'étais justement le conférencier au camp des Bouleaux en fin de semaine dernière et j'ai rencontré une ancienne élève qui, elle, était surdouée. Elle avait une longueur d'avance sur tous les élèves, mais on n'a pas su au secondaire exploiter son potentiel et elle a décroché assez rapidement. Et ça, c'est dommage, mesdames et messieurs. Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein dans les salles de classe. Des élèves qui s'ennuient parce qu'on doit aller au rythme de la moyenne et non pas seulement au rythme de la moyenne, mais de la moyenne un peu plus faible. Vous allez me dire, oui, mais il faut tenir compte des faibles. C'est pour ça que moi, j'ai toujours cru qu'on doit séparer, justement, les élèves doués, les élèves réguliers et les élèves qui ont un parcours particulier. On doit les séparer. C'est clair. Ça n'empêche pas qu'un élève peut passer, par exemple, d'un programme à l'autre. Il peut passer d'allégé à régulier. C'est possible, ça. Et ce n'est pas parce qu'il est allégé qu'il est moins bon. C'est qu'il y a un cheminement différent, il y a un style d'apprentissage différent, il y a des capacités différentes. Il ne faut pas le voir en gradation. Il faut le voir à ce que chaque élève doit être dans un univers qui lui correspond. Vous savez, ça, ce sont nos problèmes ici. Mais ailleurs dans le monde, on retrouve des problèmes beaucoup plus graves. Ce qu'on apprend par la presse, c'est qu'il y a plus de 45 millions d'esclaves modernes à travers le monde. Oui, mesdames et messieurs, plus de 45 millions. C'est ce que nous dit la presse. Plus de 45 millions de personnes dans le monde sont réduites à une forme moderne d'esclavage, dont les deux tiers en Asie-Pacifique, selon une étude publiée mardi, qui évoque un fléau beaucoup plus répandu que ce que l'on pensait auparavant. Cette estimation est avancée par le rapport 2016 Global Slavery Index de la Walk Free Foundation, une initiative lancée en 2012 par le magnat australien des mines Andrew Forrest pour sensibiliser aux formes modernes de l'esclavage qui englobent des cas de figure très différents. Trafic de personnes, prostitution forcée, enfants soldats, travail forcé, utilisation des enfants dans le commerce international de stupéfiants, ces formes d'esclavage se multiplient aujourd'hui en grande partie à cause de la vulnérabilité exacerbée par la pauvreté, la discrimination et l'exclusion sociale, relève de son côté l'ONU. Au total, et écoutez ça, mesdames et messieurs, 124 pays ont criminalisé la traite des êtres humains conformément au protocole de l'ONU de 2003, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Et 96 pays ont adopté des plans d'action pour coordonner la réponse gouvernementale. Cependant, M. Forrest a estimé que davantage devrait être fait. Nous appelons le gouvernement des 10 premières économies au monde à promulguer des lois au moins aussi fortes que le Modern Slavery Act britannique de 2015 en prévoyant un budget et des capacités pour s'assurer que les organisations responsables des formes modernes de l'esclavage rendent des comptes, a-t-il dit. C'est en Asie que l'esclavage est le plus répandu, derrière l'Inde, 18 millions, viennent la Chine, 3 millions, le Pakistan, 2 millions, le Bangladesh, tout près de 2 millions, et l'Ouzbékistan, un peu plus d'un million. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. On se dit évolué, on se dit au sommet de la science et de la technologie. Ce que je rêvais lorsque j'étais au primaire, on peut le vivre maintenant. Je me souviens très bien où est-ce que j'étais. J'étais sur la rue Guertin, dans la paroisse Saint-Odile, de Cartierville sur l'île de Montréal. Et on parlait des amis ensemble après l'école et on se disait, qu'est-ce que ça va avoir l'air dans l'an 2000? Et là, on se disait, waouh, on va pouvoir parler à travers des téléphones puis se voir face à face. Ça va être extraordinaire. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il va y avoir des autos électriques. Il y en a aujourd'hui, mesdames et messieurs. Mais moi, ça me brise le cœur de voir que nous, on vit dans un pays libre, on a une liberté qui est tellement grande, qui diminue à certains égards, mais qui est quand même encore aujourd'hui assez grande pour se réjouir. Mais il y a des gens, il y a des jeunes, il y a des femmes et des enfants qui vivent l'esclavage. C'est important que les 10 premières économies puissent embarquer dans cette direction-là pour limiter et réduire l'esclavage, parce que l'esclavage est le résultat d'un cœur humain déchu. Exploiter un des nôtres, c'est ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle de l'humanité. Un autre élément qui est difficile, c'est d'aller à l'encontre de notre conscience. Dans le cas précédent, ce qu'on voyait dans la presse, c'est qu'il y a des gens qui vont à l'encontre de la liberté des autres, mais ici, notre gouvernement veut aller à l'encontre de la conscience de certains médecins. C'est ce qu'on apprend dans Le Devoir, dans un article intitulé « Refuser de transmettre une demande contrevient à la déontologie ». Voici ce qu'on apprend. Le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, affirme que même si les médecins ont le droit d'invoquer l'objection de conscience pour refuser d'administrer l'aide médicale à mourir aux patients qu'ils souhaitent, ils ont l'obligation déontologique de transmettre prestement toute demande à un collègue. Toute forme d'obstruction passive sera considérée comme une faute professionnelle, affirme-t-il. Ça, c'est grave, mesdames et messieurs. Si un médecin dans sa conscience n'est pas à l'aise de donner la mort à un patient qui réclame la mort, puisque la loi le permet au Québec et bientôt au Canada, eh bien, il est tenu de transmettre l'information à un collègue, d'acheminer l'information pour que le plus rapidement possible, le patient qui en fait la demande puisse recevoir son traitement. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donner la mort, c'est un traitement. Tuer quelqu'un, c'est devenu un traitement. Il y a des médecins qui s'y opposent totalement. Et c'est pour ça que moi, je me bats pour la liberté de conscience, la liberté d'expression et la liberté de religion. Les trois sont indissociables puisqu'ils sont inhérents à l'être humain. Et aller à l'encontre de notre conscience, c'est extrêmement malsain. Ça brise la paix intérieure, ça nous fragilise, ça fait de nous des gens qui n'ont pas de respect envers nous-mêmes. Et là, c'est le gouvernement qui n'a pas de respect envers les médecins. On va dire, oui, mais les patients ont le droit d'avoir leurs soins. Oui, mais si un soin, comme il est appelé, brime la conscience d'un médecin, doit-on l'obliger? Doit-on lui imposer? Écoutez, on n'est pas des animaux. Puis on doit faire tout en notre possible pour bien traiter les animaux. À plus forte raison, les êtres humains. C'est tellement dommage, mais que voulez-vous? Maintenant, il y a des gens qui cherchent des solutions à plusieurs problèmes. Et un des problèmes, c'est le problème constitutionnel, puisque le Canada a une constitution qui a été rapatriée en 1982, mais le Québec ne l'a pas signée. On se souvient de la nuit des longs couteaux. Maintenant, le Parti québécois fait face à un dilemme. La majorité des Québécois ne veulent pas d'un référendum sur la souveraineté et ne veulent pas de souveraineté, ne veulent pas d'un Québec indépendant du Canada. Alors que trois élus du Parti québécois ont lancé une idée, proposer non pas un référendum sur l'indépendance du Québec, mais présenter un choix aux Québécois entre l'indépendance et un Canada renouvelé. Ainsi, si les Québécois optent pour un Canada renouvelé, le Parti québécois irait défendre cette avenue-là auprès du Canada. Moi, ce que je vois là-dedans, je trouve ça intéressant. Moi, j'avais proposé, il y a quelques années, un référendum sur le choix des Québécois, quelque chose de plus large, où est-ce qu'on présenterait différentes options. Il pourrait en avoir 3, 4 ou 5 options. Par exemple, s'il y a un groupe de gens qui se mobilisent puis disent « Nous, ce qu'on veut, c'est devenir un département français. » Un autre va dire « Nous, ce qu'on veut, c'est devenir un État américain. » Un autre groupe dit « Nous, ce qu'on veut, c'est un Québec indépendant. » Alors, il y aurait 3 ou 4 options. Il devrait y avoir au moins 100 000 individus qui se joignent à cette option-là. Et là, les Québécois votent en 2 tours. Premier tour, on vote et les 2 idées principales passent à un 2e tour. Et là, pendant 10 ou 15 ans, le gouvernement du Québec doit défendre cette position-là auprès du Canada en disant « Voici ce que les Québécois réclament en majorité. » Maintenant, ici, la faiblesse qu'on trouve ici, c'est que si on veut que tout le Canada soit renouvelé, eh bien, le problème que ça pose, c'est qu'il y a 9 autres provinces puis il y a des territoires qui vont dire « Oh, un instant, on ne changera pas le Québec sans nous consulter, ça fait partie de notre Constitution. » Alors, même si le Québec offre une proposition de renouvellement, il faut qu'elle soit entérinée ou il faut que cette proposition ait l'aval de la majorité des provinces du Canada pour que ça puisse passer. Parce que même si ça passe au Québec, il faut que ça passe dans le reste du Canada. Ce que je soupçonne aussi, c'est de démontrer que Le renouvellement du fédéralisme est trop compliqué. Donc, le Parti québécois va se lever et dire au peuple, « Voyez-vous comment c'est compliqué? Séparons-nous. » Donc, je soupçonne que c'est une stratégie pour tout simplement relancer et recréer un dynamisme et un appétit pour la séparation du Québec. Un article à lire. Maintenant, les bonnes nouvelles du jour. Et oui, mesdames et messieurs, la ministre Stéphanie Vallée annonce la hausse des seuils d'admissibilité à l'aide juridique en fonction du salaire minimum. Donc, puisque le salaire minimum augmente, eh bien, on ajuste les seuils d'admissibilité pour l'aide juridique. Donc, il y a différentes grilles que vous pouvez trouver sur la plateforme du Newswire. En allant sur ericlantier.net, vous cliquez sur le titre et vous allez avoir accès au lien. Et donc, parce que si vous êtes seul, vous êtes célibataire, ou si vous êtes seul avec enfant, ou si vous avez un conjoint avec un ou deux enfants, eh bien, vous pouvez voir si vous êtes éligible à l'aide juridique. Et il se peut que vous soyez éligible à l'aide juridique, mais que vous ayez à débourser un certain montant d'argent, soit 100, 200, 300 $, tout dépendant de la hauteur de votre revenu. Ensuite, le plateau Mont-Royal augmente l'offre de stationnement pour vélos sur les artères commerciales. On sait que sur le plateau Mont-Royal, il y a beaucoup de cyclistes. Et donc, à ce moment-là, plutôt que d'attacher après un arbre votre bicyclette ou après un poteau d'arrêt stop, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir des endroits assignés à cet effet. Fête des voisins 2016, je me souviens, on l'a fêté ici dans notre quartier, sur notre rue en 2015. Eh bien, cette année, la fête des voisins, c'est le samedi 11 juin. Vous pouvez aller sur fêtesdesvoisins.qc.ca ou consulter le centre des loisirs de votre municipalité. C'est une fête qui est à l'échelle de tout le Québec. C'est une initiative qui a démarré en France et ça a pour but de côtoyer nos voisins. On se plaint souvent en Occident qu'on ne connaît pas notre deuxième ou notre troisième voisin. Eh bien, ils vont vous donner des cartons d'invitation que vous pouvez remplir vous-même, des affiches, des gaminets même, et donc tout du matériel, des ballons à l'effigie de la fête des voisins. Donc, vous pouvez organiser une fête, ça peut être un 5 à 7, ça peut être un temps d'échange musical, ça peut être plein de choses. Alors nous, on était dans la rue, on a installé des tables, on a amené de la nourriture et on a mangé ensemble, on a échangé, ce fut fort agréable. Alors vous pouvez voir sur fêtesdesvoisins.qc.ca ou appeler le 311. Sur ce, mesdames et messieurs, eh bien, puisque le temps est écoulé, je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'horizon. Au revoir!